Radio Campus 88.3.
Est-ce que vous êtes bien sûr de la fréquence?
Certain.
C'est pas facile avec 4 cordes, en plus je connais pas la suite.
Tu veux pas nous jouer autre chose?
Ah ouais, Satisfaction par exemple.
Satisfaction?
Ouais, c'est plus dans le coup ça.
C'est parce que tu sais pas jouer, c'est tout. Ouais.
Radio Campus 88.3 FM. Dans ta gueule.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion de Radio Campus Orléans. Je suis en compagnie de Erwan.
Salut.
Aujourd'hui, dans l'émission La science infuse, nous allons rencontrer Mathieu Lidloff, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université d'Orléans, qui va nous présenter l'exposition sur Paroles d'informaticienne.
Et en deuxième partie, on retrouvera la suite de notre série sur les podcasts des doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans qui nous présentent leur sujet de recherche.
Donc, bonjour Mathieu.
Bonjour Marion, bonjour Erwan.
Et nous sommes aussi en compagnie de...
Geneviève Guettem.
Qui est maître de conférences en arts plastiques et chargée de mission à sciences société, pardon.
Voilà, donc je suis enseignant-chercheur en arts plastiques à l'INSPE Centre Val-de-Loire, qui donc est chargée de la formation des enseignants. Et je suis également chargée de mission SAPS, qui veut dire science avec et pour la société. Et cette mission consiste à définir la politique de vulgarisation et dissémination de la science de l'université vers les publics qui n'ont pas, qui ne sont pas familiarisés ni avec l'université ni avec la recherche. Et c'est dans ce cadre, voilà, que je participe à cette émission.
D'accord. Du coup, revenons à l'exposition Paroles d'informaticienne. Il y a un rendez-vous le jeudi 17 octobre, donc ce jeudi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Donc, il y a quelques mois, la mission égalité-diversité, qui est chapeautée par Didier Chavrier, qui est chargé de mission à l'université, a monté une exposition qui s'appelle « Paroles d'informaticienne » et qui retrace le portrait, finalement, de 7 anciennes étudiantes en informatique qui sont soit passées par l'UFR Sciences, mais aussi par l'IUT. Et cette exposition est actuellement visible à la BU des Sciences. Donc juste à côté du parc floral, et ça se présente sous la forme de cette roll-up et qui permet un petit peu de découvrir ces parcours qui sont pas nécessairement linéaires, qui sont variés. L'exposition est visible tout au long du mois d'octobre et en point d'orgue ce jeudi 17 octobre à 18h, toujours à la BU des Sciences. Eh bien, on va organiser une table ronde qu'on a décidé avec Geneviève d'intituler « Parcours scientifiques et femmes ». Et cette table ronde, bien, ça nous permettra de mettre aussi à l'honneur des étudiantes et des enseignantes chercheuses de l'université en informatique, et elles aussi de nous expliquer leur parcours et peut-être leurs difficultés en tant que femmes dans ce milieu. Et voilà, venez nombreux.
Alors justement, le parcours de 7 justement étudiantes anciennes, étudiantes de l'Université d'Orléans, pourquoi 7? Il n'y en a pas plus des étudiantes?
Alors, il est vrai qu'en informatique, on souffre un petit peu du fait d'avoir beaucoup de jeunes hommes et assez peu de jeunes femmes. On aimerait que cela change parce qu'il n'y a aucune raison à ce que ça soit ainsi. Dans nos formations, le nombre de jeunes femmes varie entre 15 et 25%, donc ça reste peu. On s'est adressé alors il y en a plus, hein, évidemment, des étudiantes qui ont été diplômées de l'Université d'Orléans, mais on a ciblé 7 parcours, voilà, un petit peu variés pour les mettre à l'honneur, et parce qu'il faut bien que l'exposition ait quand même un certain cadre, une certaine limite, donc on ne peut pas présenter 50 ou 100 portraits différents.
Alors, on peut peut-être s'attarder un petit peu sur ces différents portraits, ces différents parcours. Quel mot peut-on en dire? On a quoi comme variété de parcours?
Alors, les parcours des étudiantes ressemblent aux parcours des étudiants. C'est-à-dire que pour certains, ils ont immédiatement trouvé leur voie et ont fait immédiatement un but informatique ou une licence, puis un master informatique. Puis d'autres se sont cherchés. D'autres ont d'abord tenté de faire une licence, par exemple, de sciences de la vie avant de se réorienter vers l'informatique. D'autres ont d'abord commencé une licence math-info avant de s'orienter vers un but informatique. Donc il y a parfois des réorientations, mais des réorientations qu'on trouve à la fois chez les jeunes femmes, à la fois chez les jeunes hommes. Mais l'idée de cette exposition, c'est de démontrer que l'informatique est vraiment ouverte à tous et à toutes. On s'aperçoit en particulier qu'en informatique, bien, jusque dans les années 80-90, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes et que cette proportion de femmes dans ces métiers de l'informatique a diminué. Et on aimerait bien que ça change parce que aussi les entreprises qui les recrutent aimeraient avoir des profils divers et diversifiés dans leurs effectifs.
Alors moi, j'ai une question. Du coup, l'exposition se passe à la BU de Sciences. Est-ce qu'il y aura des ouvrages à disposition sur certaines femmes informaticiennes ou scientifiques ?
Alors, il y aura une table qui restera toute la durée de l'exposition avec des présentation de ce qu'on peut faire quand on fait de l'informatique. Alors je n'ai pas encore vu cette table, mais elle est pour chaque exposition, en fait, les personnels de la BU font ce travail de documentation dédiée aux expositions qui sont présentées.
D'accord.
Alors tu disais, Mathieu, jusque dans les années 90, il y avait beaucoup de femmes dans l'informatique et ça a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà, je ne peux pas vraiment quantifier combien il y avait de femmes. Peut-être que c'était quand même de l'ordre de plus de 50% à cette époque-là.
Ah, au-dessus, il y avait plus de femmes que d'hommes dans l'informatique.
Y compris parmi les premiers développeurs, les premiers codeurs, ceux qui programmaient, il y avait beaucoup de femmes.
Alors, on peut citer Ada Lovelace, justement.
Bien sûr, la plus connue, Ada Lovelace, qui a d'ailleurs donné son nom à un langage qui a été développé plus tard. On peut citer Margaret Hamilton, Grace Hooper. Donc, il y avait
Eddie
des
Lamar.
Femmes qui étaient... Eddie Lamar aussi. Donc, des femmes qui, à la fois sur de la technologie, à la fois sur de la programmation, étaient très présentes et ont fait partie des pionnières. Et puis, doucement, l'informatique s'est aussi imposée dans le grand public. Les gens ont eu accès de façon plus démocratique aux ordinateurs en achetant des ordinateurs à partir des années 80-90. Et il y a eu un certain glissement, et aussi dans l'image que s'en est faite la société, puisque bien souvent, on imagine que l'informaticien, c'est un geek derrière un écran, aux cheveux gras, qui fait de la programmation au fond de son garage, et que c'est apparemment une image qui collerait plus aux garçons qu'aux filles. Alors que c'est une image qui est pas réelle, ça c'est juste un imaginaire collectif qui a développé cette image-là et qui a peut-être fait d'une certaine façon fuir certaines femmes en se disant « mais moi je ne m'identifie pas à cette image-là » et en fait c'est des préjugés qui se sont construits et qui ne sont pas la réalité.
Sachant qu'on le voit dans le film « Les figures de l'ombre » où on suit justement des femmes à la NASA dans les années 60 qui faisaient les calculs à la main avant l'arrivée de l'informatique. L'informatique est arrivée, le calcul c'était un travail justement de femmes à l'époque. Et donc quand les ordinateurs sont arrivés, elles se sont formées pour ne pas perdre leur travail. Et pourquoi les hommes sont arrivés du coup finalement? Pourquoi ils sont intéressés aux ordinateurs?
Il semblerait que y a eu un regain d'intérêt de la part des hommes parce que ces métiers ont été plus valorisés, qui fait que ça a peut-être un peu davantage attiré les garçons à ce moment-là que les jeunes filles pour aller faire des études. Alors en sachant que dans les années 70-80, il n'y avait pas nécessairement d'études à proprement dites en informatique. L'informatique, c'est une science qui est issue. Alors si on regarde du côté des États-Unis, c'est plutôt issu du domaine de l'électronique. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en France, c'est plutôt du domaine des mathématiques qui est issu de l'informatique. Donc il n'y avait pas nécessairement de formation en informatique, mais en tout cas, les jeunes hommes se sont dit « tiens, ça c'est des métiers sur lesquels on n'est pas assez présent et on presque occupé trop de terrain ».
Et aujourd'hui, justement, les chiffres montrent que les femmes sont moins justement dans ce domaine-là. Donc sur le site de l'université d'Orléans, univ-orléans.fr, sur la page justement de l'exposition « Parole d'informaticienne », on peut lire les informations suivantes, que 14,6% des élèves de terminale inscrits en spécialité NSI numérique et sciences informatiques sont des femmes, sont des élèves étudiantes. 19% des diplômés et ES de formation au numérique dans le supérieur. Et enfin, les femmes, c'est 23% des emplois du numérique en France, j'imagine.
C'est ça. C'est ça. Et puis, donc, on estime que c'est environ 23%. Alors, c'est des chiffres également compliqués à obtenir. Et on estime que la part des femmes dans les métiers du numérique, c'est environ 23%. Et le numérique, ici, cette définition du numérique couvre beaucoup, beaucoup de métiers. Ça va du développeur, du programmeur, à des métiers plus orientés sur le design, le web design, par exemple. Donc, il y a une variété de métiers qui se cachent derrière le numérique. Et il y a des métiers où cette fraction de postes occupés par les femmes est encore moindre, malheureusement.
Oui, justement, j'allais poser la question par rapport à ça en termes aussi d'importance et de responsabilité dans le poste. Le peu de femmes qui accèdent à ces métiers, est-ce qu'elles vont monter justement ou est-ce qu'elles vont être également confrontées à ce fameux plafond de verre qui font qu'elles vont stagner à des postes sans forcément beaucoup de responsabilité ?
Alors, il y a des femmes qui occupent des postes de PDG au sein d'entreprises informatiques. Donc, il est tout à fait possible de parvenir au sommet. Y a-t-il des difficultés ? Ça, c'est un peu la question. Alors, tout comme Geneviève, je suis enseignant-chercheur, donc je n'évolue pas dans une entreprise classique. Hein. J'évolue dans un établissement d'enseignement supérieur, donc je ne me rends pas compte de ce plafond de verre. À l'université, c'est aussi quelque chose sur lequel on veille, qui est le recrutement aussi, de lutter contre les biais de genre lors des recrutements.
Alors, quelques femmes, justement, PDG ou à la tête de grandes entreprises, est-ce que finalement, quand on gratte justement la couverture de voir justement une femme sur des grands noms, est-ce que ensuite derrière, dans les conseils d'administration, on retrouve également des femmes ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin et descendre beaucoup plus bas dans la hiérarchie avant de les retrouver ?
Alors, il y en a aussi dans les conseils d'administration. Évidemment, c'est aussi proportionnel au vivier qui existe. C'est-à-dire, si on a peu de femmes dans les entreprises, eh bien, c'est sûr qu'on en voit peu aussi au niveau de la pyramide de ces entreprises.
Comment on fait pour renverser la tendance ? Alors, j'imagine que parmi les actions qu'on peut mettre en place, il y a sensibiliser par le biais d'exposition. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
C'est la grande question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la solution. Tout le monde se pose un petit peu cette question. En tout cas, le diagnostic a été posé, qui est qu'on manque de femmes. Comment les accompagner ? Il y a des actions, il y a pas mal d'associations qui se sont formées pour un peu orienter vers le numérique, vers la technologie et démontrer aux jeunes femmes que c'est aussi pour eux. À l'Université d'Orléans, nous avons accueilli par exemple des stages Girls Can Code, où là, des jeunes filles de fin de collège, début lycée, viennent passer 2 jours pour faire de la programmation, et c'est des stages exclusivement réservés aux filles.
Juste. Geneviève ?
Alors bon, en termes de levier, c'est vrai que faire des choses à l'université et en fin de lycée, c'est très bien, mais on s'aperçoit que les barrières de genre arrivent beaucoup plus tôt. Et bon, il y a une étude récente, par exemple, qui a été réalisée par PSL sur les filles et les mathématiques. Ils s'aperçoivent que le décrochage se fait dès le CP.
C'est au CP, du coup, à l'âge
c'est
de 5-6 ans.
Alors, en milieu d'année, puisque au CP, il y a des évaluations nationales depuis un certain nombre d'années. Et on s'aperçoit que les filles, en fait, qui sont aussi bonnes ou même meilleures que les garçons en début de CP, eh bien, à la fin du CP, c'est terminé.
Qu'est-ce qui se passe pendant cette année décisive ?
Justement, on ne sait pas. Les études se succèdent, on est dans le constat, mais et puis dans peut-être des propositions pour essayer de faire des essais pour voir comment on peut renverser un peu la tendance. Mais il y a vraiment un décrochage. Il y a une autre étape importante, c'est en cinquième. Au niveau des sciences. Alors voilà, pourquoi ces moments spécifiques ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, il y a des petites pistes qui arrivent. On s'aperçoit qu'il y a des décrochages moins importants en REP, donc en réseau d'éducation prioritaire plutôt que dans d'autres environnements. Alors, est-ce que parce que là, les classes sont moins nombreuses, qu'il y a des dispositifs ? Bon, décrochage un petit peu moins important quand l'enseignante qui fait les mathématiques est une femme. Des classes qui sont moins mixtes, enfin, il y a moins de garçons dans les classes que. Alors, soit non mixtes, soit il y a moins de garçons, mais les filles se maintiennent. Alors, est-ce que c'est par comparaison ? Est-ce que je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il y a un certain nombre d'éléments qui commencent à être observés et qui permettront peut-être de proposer des solutions. Enfin, ça va prendre du temps, c'est normal. Et puis, le fait d'enseigner justement dans un institut de formation des enseignants fait qu'on est très, très attentif à ces choses-là.
Alors, j'ai envie de dire justement, CP et 5e, ça intervient à deux moments justement du développement de l'enfant. Quand on arrive au CP, c'est la fin de la maternelle, c'est au moment où les enfants font vraiment finalement la différence entre le garçon et la fille, où il y a déjà une construction qui commence à se faire, et la cinquième, c'est le début de la puberté.
Voilà, je n'ai pas de réponse. Hein.
Cinquième, c'est pas aussi... parce que c'est à ce moment-là où on découvre la SVT et la physique-chimie, donc peut-être...
Je pense que les raisons sont extrêmement complexes. Et je ne me hasarderai pas à donner une explication comme ça immédiatement.
Mathieu, tu souhaitais réagir ?
Oui, il semblerait qu'un levier important soit aussi de chercher à intéresser les jeunes filles aux sciences, plus particulièrement à l'informatique, mais aux sciences en général. Donc évidemment, en faisant de la publicité, mais aussi en organisant des événements qui peuvent leur être dédiés. Il y a peut-être aussi une sensibilisation à faire du côté des formateurs, c'est-à-dire des enseignants en l'école primaire, au collège, pour au moins qu'ils aient conscience qu'on peut parfois véhiculer une image genrée de certaines disciplines, ce qui n'est pas le cas.
Donc, de façon inconsciente, de toute façon, et c'est pour ça que ma collègue en mathématiques, par exemple, est très attentive à parler de ces choses-là en cours de mathématiques, même si ses objectifs, c'est évidemment de préparer les étudiants au concours, elle aborde ces questions-là.
Ça se voit aussi sur, par exemple, le grand public, les boîtes de jeux, les publicités pour les jeux dans les catalogues de jouets. Eh bien, il y a encore 10 ou 20 ans, c'était très genré. Il y avait certains jeux qui étaient clairement à destination des petits garçons et d'autres à destination des petites filles. Quand on regarde le visuel qui était proposé.
Les fameuses pages bleues et roses.
Bleues et roses. Et puis même des jouets où systématiquement, c'était une petite fille qui jouait avec et d'autres pour lesquels c'était systématiquement un petit garçon. Et là aussi, il y a une évolution. Si on regarde maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et tout ça, ça permet aussi de lutter contre les préjugés de genre.
Marion, tu souhaites peut-être réagir ou est-ce que je continue ?
Non, c'est bon.
En tout cas, il est 14h17 sur Radio Campus dans la Science Infuse. On est toujours avec nos invités. Mathieu de l'Université d'Orléans, enseignant-chercheur du cours en informatique, j'imagine. On ne l'a pas précisé tout à l'heure, tout comme Geneviève. Guetem, qui est responsable de la mission SAPS, Science avec et pour la société de l'Université d'Orléans dans la Science Infuse. On est ensemble jusqu'à 15h. On continue avec Sometimes. C'est un titre de Catch. Catch 92. Du coup, si on va entièrement en anglais sur Radio Campus, restez avec nous, à tout de suite. Watch 92 avec le titre Sometimes sur Radio Campus Orléans. Vous nous écoutez en FM sur le 88.3, en radio numérique terrestre et sur notre site internet orléans.radiocampus.org, sur lequel vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les sciences infuses précédentes et du futur en podcast de manière gratuite et illimitée. Et oui, puisque ce sont ça les radios associatives, ce sont des radios qui sont gratuites, qui sont illimitées, et vous pouvez écouter de la musique à toute heure de la journée, en plus d'avoir une grande utilité sociale et à donner la parole aux personnes qui ont besoin d'avoir la parole. Et justement, on parle de femmes informaticiennes, des anciennes étudiantes de l'université d'Orléans. On en parle avec Mathieu et Geneviève de l'université, tous deux enseignants et enseignantes chercheuses. Cette étudiante que vous recevrez autour de cette table ronde ce jeudi 17 octobre de 18h à 20h30 à la BU de Sciences au second étage. Alors il y a des questions que vous leur préparez, vu qu'on va être de l'ordre du témoignage lors de cette table ronde. Qu'est-ce que vous espérez avoir comme réponse, Mathieu ?
Alors les personnes que l'on va recevoir autour de la table ronde ne sont pas les étudiantes qui sont passées par l'université, parce qu'elles ont des contraintes aussi en termes de vie familiale et de vie professionnelle. Nous allons recevoir lors de cette table ronde, donc qui s'intitule « Parcours scientifique et femmes », 6 personnes qui sont des femmes, qui sont enseignantes-chercheuses ou étudiantes. Et donc, nous allons avoir certaines de mes collègues enseignantes-chercheuses en informatique qui permettront un petit peu de dévoiler leur parcours, comment elles sont arrivées là et de leurs difficultés. Nous aurons également une doctorante qui prépare actuellement une thèse en informatique, une étudiante qui est actuellement en master et qui pourrait bien se destiner à faire de la recherche. Et puis, nous aurons également la présence d'une enseignante de lycée qui enseigne NSI pas loin, au lycée Voltaire.
Oui, donc ce ne seront pas nécessairement les 7 mêmes étudiantes, anciennes étudiantes de l'université qu'on retrouvera sur les roll-up de cette exposition, mais bien un panel qui sera constitué de certaines d'entre elles, mais bien d'autres personnes.
Voilà, et qui permettra aussi de se poser la question de... elles aussi sont informaticiennes.
Hein. Et surtout, elles ont continué. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi à passer ce cap du décrochage ? Et est-ce qu'elles rencontrent justement dans leur environnement des gens qui disent « mais c'est bizarre, tu fais informatique, comment ça se fait ?» Enfin, ce décalage entre la minorité et la majorité, comment elles le perçoivent ?
Et puis on aura aussi cette variété entre des personnes qui occupent des postes en informatique depuis plusieurs années et des étudiantes qui se préparent à rentrer doucement dans la vie professionnelle. Donc c'est aussi cette variété qui nous permettra de savoir quels sont les verrous actuels qui freinent peut-être les jeunes femmes à rentrer dans l'informatique. Et pour les collègues qui sont en poste depuis un certain nombre d'années, qu'elles puissent être les témoins de l'évolution qu'il aurait pu y avoir sur les 20 dernières années, par exemple.
Alors, qui peut venir justement à cette table ronde ? C'est ouvert à tout le monde, au public ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut forcément être étudiant ou étudiante ou issu de la communauté universitaire ?
Alors, c'est une des caractéristiques des actions SAPS de l'université, c'est qu'on essaie de les rendre les plus ouvertes possibles. Donc, tout le monde est bienvenu pour assister à cette discussion et puis poser des questions.
Et poser des questions, être curieux et curieuse.
On a vraiment voulu que ça soit ouvert à la société et donc quoi de mieux que ce lieu de la bibliothèque, bibliothèque des sciences, située en plus juste à côté de l'arrêt parc floral du tram, donc très pratique et c'est vraiment ouvert à tous et à toutes à partir de 18h. Oui. Dans la limite évidemment des places qui seront disponibles, mais n'hésitez pas à venir.
Parlons un petit peu du calendrier des prochains événements. Donc on a noté ce jeudi 17 octobre à partir de 18h en BU de Sciences. Il y en a d'autres, des événements tout au long de l'année, Geneviève ?
Alors, pas forcément à la BU Sciences, puisqu'il y a d'autres lieux qui justement sont destinés à accueillir du grand public. Alors le 22 octobre aura lieu au MOB, une rencontre, alors là, sciences humaines, sur Annie Ernaux et la façon dont elle est abordée en traduction. Et j'y interviendrai également. Et mon approche serait un petit peu décalée, puisque traduire, on a l'habitude de penser en termes de mots. Or, moi, je vais proposer un petit atelier où il s'agira de traduire un texte, mais de manière visuelle.
De manière visuelle, en termes de dessin, en termes de symboles, de gestes, ou de manière... Enfin, c'est libre.
Il va falloir que les gens s'approprient cette idée du visuel par rapport à un texte qui est assez... à la fois descriptif et abstrait. J'en dis pas plus. Alors, ce que je voudrais simplement indiquer, pourquoi au MOB ? Eh bien, l'université est en train de signer, c'est vrai, absolument imminent, une convention avec le musée la biodiversité et de l'environnement, qui va permettre aux chercheurs de l'université d'utiliser le quatrième étage comme un espace.
Oui.
Il y a deux salles de conférences, une grande et une petite, qui s'appellent la Grande et la Petite Ours, et un espace ouvert, polyvalent, où justement auront lieu des ateliers. Alors certains le connaissent, ce lieu, puisque l'année dernière, c'est là qu'a eu lieu la fête de la science. Et chose importante, jusqu'à présent, le musée était gratuit pour les étudiants, mais pas pour les personnels de l'université.
Oui.
Or maintenant, justement, tout le monde appartenant à l'université va pouvoir y entrer et voir les collections.
Y compris le personnel de Radio Campus.
Eh bien, écoutez, normalement, il y a une convention qui
ça fait plaisir. Je voulais dire qu'on a autour de la table une experte de Annie Ernaux, vu que toi, Marion, tu avais justement chroniqué autour d'Annie Ernaux l'année dernière sur notre semaine Aphrodite.
Oui, exactement.
Voilà, donc Annie Ernaux, évidemment, que maintenant tout le monde connaît depuis son prix Nobel, mais c'est un texte qui est au concours. C'est beaucoup de... Alors, la collègue qui organise cette rencontre est Leïla Véron. Elle est spécialiste en linguistique, etc. Donc, pareil, venez tous, c'est ouvert et vous allez y découvrir des choses de façon assez ludique. Donc ça, c'est un rendez-vous très proche. Mais sinon, le 18 novembre, il y aura une rencontre à l'hôpital qui s'appellera Art et Soins et qui va faire le bilan à la fois d'une opération qui a été organisée par l'université l'an dernier dans le cadre du mois sans tabac et qui cette fois reprend les éléments de l'an dernier et développe la réflexion grâce à un partenariat une collaboration qui se développe avec l'université de Rennes 2. Donc un chercheur sociologue de Rennes 2 va venir faire à la fois une introduction de son travail à venir et puis un retour sur ce qu'il a vu de l'expérience passée. Le 19 novembre, le lendemain, il y aura une rencontre qui s'appelle Championne. Alors, championne en écriture inclusive, à savoir champion.ne. Donc, il y aura à la fois les garçons et les filles. Et c'est une rencontre qui va accompagner également une exposition qui va se dérouler dans les trois bibliothèques, lettres, sciences et droit. Et qui, donc, le personnel du service de documentation va accueillir le public à partir de 16h30. Il y aura un parcours pour découvrir l'exposition dans les trois bibliothèques. Et ensuite, une conférence par Béatrice Dubus, qui est sociologue du sport, et qui va présenter également les difficultés ou les cursus, les protocoles qui font partie de la vie des champions. Et bon, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est aussi une manière de montrer que même si les Jeux Olympiques sont terminés, l'entraînement continue.
La flamme continue de brûler au fond de nos cœurs et au sein du campus d'Orléans. Où est-ce qu'on retrouve toute cette information, Geneviève ?
Alors, il y a des pages SAPS sur le site internet de l'université qui sont encore un petit peu difficiles à trouver, mais nous y travaillons. Le prochain chantier, justement, sera de l'ordre de la communication.
Et en podcast, évidemment, sur orleans.radiocampus.org. Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir été avec nous. Est-ce que, Marion, tu veux rappeler qui étaient nos invités ?
Bien, du coup,
je te laisse cet honneur.
Ok. Nous avons reçu Mathieu Leidloff et Geneviève Guetem de l'Université d'Orléans.
Et la science infuse, ça continue. On est ensemble jusqu'à 15h après ce morceau. Nous écouterons deux épisodes du projet justement des doctorants et doctorantes et on écoutera justement deux podcasts de doctorantes, Elisa Chenaf de lycée OA Chimie et Gina Jazar qui, elle, est au STAPS SIAMS et nous parlerons justement de leur thèse sur Radio Campus Orléans. Mais pour l'heure, Gal Hey Gozel de Rahman Mameldi. C'est sur Radio Campus dans la Science Infuse. À tout de suite. Gagel Hey Gozel de Raman May Medley sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours avec nous dans La Science Infuse. On est ensemble jusqu'à 15h et comme promis, on va se tourner vers nos chers doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans qui ont participé avec Radio Campus Orléans à l'enregistrement d'une série de podcasts pour vulgariser et rendre accessible en quelques minutes le sujet de leur thèse. Aujourd'hui, on se tourne vers deux doctorantes. On aura Rina Jazar et dans un instant, on va écouter Elisa Chenaf. Elles vont nous parler de ligands fluorés et de diagnostic 18 de sinucléanautique. On parle de Parkinson ici.
Bonjour, je suis avec Elisa aujourd'hui. Elle est doctorante en chimie à l'Université d'Orléans. Elle va nous parler de l'imagerie médicale et de la lutte contre la maladie de Parkinson.
Bonjour Hassan. Donc, je réalise ma thèse dans les laboratoires de l'Institut de chimie organique et analytique à Orléans. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut concevoir des outils d'imagerie innovants pour éclairer les zones d'ombre de cette maladie. La maladie de Parkinson, c'est un trouble neurodégénératif qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Et elle est principalement liée à l'âge. Et comme on vit de plus en plus longtemps, ce type de maladie, elle a tendance à être de plus en plus fréquente. Donc elle est caractérisée par la perte de certains neurones. Donc ce sont les petites cellules qui sont dans le cerveau et qui lui permettent de fonctionner. Ce qui entraîne des symptômes tels que les tremblements ou des difficultés de mouvement. Pour l'instant, le diagnostic de cette maladie, il repose sur les symptômes que présente le patient. Pour le traitement également, il vise à soulager ces symptômes, mais pas à guérir de la maladie.
De quelle manière l'imagerie médicale aide-t-elle dans le traitement de la maladie ?
L'une des premières étapes pour mieux comprendre une maladie, c'est de pouvoir observer les changements qui se produisent dans le cerveau des personnes malades. Donc, il existe une forme d'imagerie médicale qui est appelée imagerie TEP, donc c'est tomographie par émission de positrons, et ça fait un petit peu peur comme nom, hein. Mais vous en faites pas, on reviendra dessus un petit peu plus tard, et ça permet d'observer l'activité des tissus dans le corps. Donc, au cœur de cette technologie, il y a les traceurs TEP, qui sont de petites molécules radioactives conçues pour se lier spécifiquement à des cibles dans le corps. Donc ça peut être des tumeurs, des cellules cancéreuses, ou dans notre cas, certaines protéines.
Il y a donc un lien entre toutes les protéines présentes dans le cerveau et la maladie de Parkinson.
Oui. Alors les protéines, ce sont de grosses molécules que l'on retrouve chez tous les êtres vivants. Donc chaque protéine a une forme particulière et elle joue un rôle bien spécifique dans le bon fonctionnement de notre corps. Donc dans le cas de la maladie de Parkinson, on retrouve une protéine localisée dans le cerveau et plus spécifiquement dans les neurones qui va s'accumuler et former des agrégats anormaux qui vont progressivement détruire le neurone. Et donc c'est à ce moment-là que les premiers symptômes de la maladie vont apparaître. Et donc le but de ma thèse, ça va être de concevoir un traceur qui peut se lier précisément à cette protéine pour pouvoir l'observer.
Tu as parlé d'une maladie radioactive, mais comment il fonctionne ce traceur ? Est-ce qu'il est dangereux ?
Alors non, c'est pas dangereux, il s'utilise comme un médicament. Effectivement, sa particularité, c'est qu'il est marqué d'un atome radioactif, ce qui lui permet d'émettre des positrons. Vous vous rappelez donc du nom de compliqué tout à l'heure, tomographie par émission de positrons. Bon, et ben, émettre des positrons, ça veut dire émettre un rayonnement, qui peuvent être détectés par une machine TEP. Donc, il est injecté au patient comme un médicament classique. On met le patient dans la machine, et lorsque le traceur il va se lier à sa cible dans le cerveau, il va illuminer la zone, ce qui va permettre en fait au médecin de voir où la protéine elle s'accumule. Donc évidemment, on ne va pas juste se contenter d'éclairer les zones affectées. Le but derrière, c'est de pouvoir obtenir un diagnostic précoce et de suivre l'évolution de la maladie ou l'efficacité des traitements. Et donc là, on arrive sur la partie sur laquelle je travaille vraiment, c'est-à-dire de concevoir un traceur.
Justement, tu as expliqué qu'on a plein de protéines dans notre corps. Comment alors on arrive à synthétiser une molécule qui se lie spécifiquement à ta cible ?
Alors il faut imaginer la conception d'un médicament en général, ça revient à créer une clé personnalisée pour une serrure très spécifique. Donc ici notre serrure, ça représente notre protéine cible et la clé, le traceur. Pour obtenir l'effet désiré, il faut que notre clé elle s'insère parfaitement dans la serrure. Donc pour avoir une première idée grossière de quelle forme on va donner à notre clé, on va avoir plusieurs méthodes. Donc on étudie la serrure en elle-même, c'est-à-dire la structure de la protéine. On peut aussi regarder quelle forme de clé a déjà été essayée sur la serrure et qu'est-ce qui a fonctionné ou non. Donc on peut aussi être aidé par des outils informatiques qui permettent de prévoir quelle forme la clé devrait avoir. Une fois qu'on a une idée de la forme qu'on veut lui donner à notre traceur, il faut le fabriquer. Et c'est là que la synthèse organique elle entre en jeu. On va construire la molécule bloc par bloc. Donc ça implique une série de réactions chimiques qui vont nous permettre de former la molécule étape par étape. Une fois fini, la molécule elle est envoyée à des biologistes qui vont tester si oui ou non en fait, elle se lie à la cible et avec quel degré d'affinité surtout. et en fonction du résultat, on va venir modifier certains blocs pour améliorer cette affinité et obtenir à la fin une clé parfaite pour notre protéine.
Et toi, tu en es où aujourd'hui dans ta recherche ?
Alors justement, sur ce projet, on est un petit peu bloqué en ce moment à cause des tests biologiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en partenariat avec plusieurs laboratoires donc qui sont à l'université de Tours, dont un qui s'occupe de la partie radiochimie. C'est-à-dire c'est l'insertion en fait, de l'atome radioactif sur la molécule. Et on travaille aussi avec un laboratoire de biologie qui font toute la partie sur ces tests d'affinité. Donc les biologistes, en ce moment, ils sont encore en train de mettre au point les tests pour mesurer l'activité de la molécule sur la cible. Moi, j'ai synthétisé plein de molécules, mais pour l'instant, sans les tests biologiques, on manque un petit peu de résultats pour savoir quoi modifier sur notre molécule pour améliorer son affinité. C'est un problème qu'on devrait bientôt régler.
Si je t'entends bien, les traceurs TEP ou TEP, on va en entendre parler beaucoup dans l'avenir.
Oui, donc ça existe déjà pour certains cancers, par exemple. Mais oui, pour Parkinson, ça va nous permettre d'améliorer notre capacité à cibler différentes protéines et à comprendre leur rôle dans la maladie de Parkinson. On peut améliorer le diagnostic, mais aussi le traitement et potentiellement trouver des moyens de prévenir la progression de la maladie. Et je voulais finir en remerciant mes encadrants de thèse, le docteur Frédéric Buron et le professeur Sylvain Routier qui ont rendu ce projet possible, l'ANR qui finance donc la thèse et ses partenaires. Et évidemment, merci à Sane de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Voilà un podcast d'une doctorante Elisa Chenaf. C'est à retrouver sur notre site orléans.radiocampus.org pour découvrir tous les épisodes. Restez avec nous. Dans quelques instants, on partira à la rencontre de Rina Jazar qui, elle aussi, est doctorante à l'université d'Orléans. Mais pour l'heure, Belly Dat, c'est un titre de Free Dust sur Radio Campus. Well, all right. Get me down a black trunk, bang. I already know what she thinking. It's written on her face, ain't gotta say a thing. But me and my brothers hanging like orangutans. Unfortunately, baby girl, it ain't no space left. It's candy paint, so all the ladies wanna taste test. It's always sunny, Southern Cali, even hotter in the valley. But I'm thinking I should probably take a rain check. Baby, you gotta relax. Sometimes you got to attack. Sometimes you gotta lay back. Don't worry, girl, I'll be back. Sometimes you gotta react, but sometimes you gotta lay back. I'ma always keep it G, believe that, believe that. Yes, I did. Got a whole lot of babies. I ain't got no kids, though. Right hand on the wheel, left out the window. Confidence cologne, you can smell it when the wind blow. Too late for the intro. Throw me in the middle. First chair, kick snare, never playing second fiddle. I'ma hurt them just a little, not a whole lot. Leave your girl alone and I'ma scoop her like a showstop. And it don't stop. Que siga el piquete, I can show you how to do it. But that's only if you let me. Let me know just when you're ready. We can go ahead and get it. Starting with the very first order of business. Baby, you gotta relax. Sometimes you got to attack. Sometimes you gotta lay back. Don't worry, girl, I'll be back. Baby, you gotta relax. Sometimes you gotta react. But sometimes you gotta lay back. I'ma always keep it G, believe that. Believe that. If you're trying to move at my speed, first of all, you gotta be in my league. I said if you're trying to move at my speed, equilibrium is what you might need. I said if you're trying to go with my speed, first of all, you gotta be in my league. I said if you're trying to move at my speed, equilibrium is what you might need. Why you say it like that? Cause it be like that. Why you say it like that? Cause it be like that. Yo, why you say it like that? Cause it be like that. Free dust behind a beat like that. Inhale, exhale. Oh yes, it works so well. Inhale, exhale. Oh no, it never fails. Inhale, exhale. Oh yes, it works so well. Inhale, exhale. Relax. Sometimes you got to attack. Sometimes you gotta lay back. Don't worry, girl, I'll be back. Baby, you gotta relax. Sometimes you gotta react. But sometimes you gotta lay back. I'ma always keep it G, believe that. Believe that. Ay. Baby, you gotta relax. Sometimes you gotta lay back. Baby, That, de Free Dust sur Radio Campus Orléans dans la science infuse. On se dirige vers Rina Jazar, elle est doctorante en STAPS SIAMS et elle nous parle des effets des probiotiques et de l'activité physique sur le microbiote et certains paramètres physiologiques chez la femme.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Rina Jazar, doctorante en première année au laboratoire SIAMS de l'Université d'Orléans. Je vous présente mon podcast sur Fleurir la santé.
Fleurir la santé, F-L-O-R-I-R. Il n'y aurait pas une faute de frappe dans le titre ?
Pas vraiment, je l'ai choisi soigneusement. Donne-moi quelques minutes et tu sauras pourquoi.
Ok, mais d'abord, dis-nous pourquoi tu as choisi de faire une thèse.
C'est plutôt la thèse qui m'a choisi. En fait, je suis une diététicienne et j'avais toujours envie de m'immerger dans le monde du sport. Pour cette raison, j'ai fait un master en STAPS qui est lié à l'activité physique. Et mon sujet de thèse se focalise sur ces deux domaines qui correspondent à mes deux grands centres d'intérêt. D'ailleurs, j'ai une question pour toi aussi, Hassan. Les fertilisants servent à quoi pendant le jardinage ?
Oula, je ne comprends pas très bien le lien avec le sujet, mais je vais te répondre quand même. Les fertilisants sont des substances naturelles ou synthétisées qui nourrissent et enrichissent le sol, non ? Pour favoriser la croissance des plantes.
Ouais, merci pour cette claire définition. Mesdames et messieurs, je vous parle aujourd'hui d'un fertilisant appelé probiotique. Ce sont des micro-organismes vivants qui existent naturellement dans notre corps, notamment dans notre système digestif, ce qu'on appelle le microbiote intestinal ou la flore intestinale. Savez-vous qu'il y a 10 fois plus de micro-organismes dans notre intestin que des cellules humaines dans tout notre organisme ?
Et alors, ces probiotiques servent à quoi ?
Ces probiotiques stimulent la flore intestinale qui devient un sol fertile où la diversité et l'abondance des micro-organismes aboutissent à fleurir la santé. En fait, ces probiotiques exercent des fonctions bénéfiques différentes, dont la digestion des aliments, ainsi que renforcent notre système immunitaire.
A-t-on tous le même microbiote intestinal ?
Absolument pas. Il existe plusieurs facteurs qui modulent la diversité du microbiote, tels que l'âge, le sexe, la prise de certains médicaments, l'alimentation, la composition corporelle et autres. Souvent, après avoir pris un traitement d'antibiotiques, on vous conseille de manger plein de yaourts. Vous vous êtes demandé pourquoi ? Le yaourt contient naturellement des probiotiques, ce qui permettra de rétablir plus rapidement l'équilibre nécessaire de votre microbiote après traitement. Mais il n'y en a pas que dans les yaourts, ça existe dans d'autres aliments fermentés comme les cornichons. D'ailleurs, vous vous rappelez, les probiotiques sont des micro-organismes vivants, donc ils ont absolument besoin de se nourrir. Et pour ça, ils vont se régaler en mangeant des prébiotiques. Attention, prébiotiques, c'est pas pareil que probiotiques. Il y a certains aliments riches en prébiotiques, ou autrement dit, des fibres non digestibles, tels que l'ail, l'oignon, les lentilles, les noix et beaucoup d'autres.
Tu nous as dit au début que ton sujet se focalise à la fois sur la diététique et l'activité physique. Où est-ce que tu mets l'activité physique dans ce contexte ?
Simple. Le fait de bouger fréquemment donne l'occasion à ces micro-organismes de danser dans notre intestin et de se multiplier. C'est sûr que c'est pas ça. L'exercice physique agit comme le jardinier qui plante, arrose et prend soin de son jardin. Plus nous bougeons, plus nous nourrissons notre corps et notre esprit, favorisant une meilleure santé mentale et physique. Ainsi, la combinaison des probiotiques et le fait de bouger crée un écosystème intérieur florissant, propice à une vie saine et équilibrée. Plusieurs recherches ont exploré l'utilisation des probiotiques chez les sportifs, concluant que la prise de probiotiques de type X, par exemple, peut améliorer les capacités de maintenir un effort physique prolongé, et que l'exercice physique semble favoriser la diversité du microbiote intestinal. Par ailleurs, les résultats varient selon le niveau des sportifs, la durée de l'intervention et le type de probiotiques utilisés. De plus, ces études se concentrent sur l'impact de la prise de probiotiques sur la performance sportive, sans aborder l'effet combiné des probiotiques et de l'activité physique chez les individus en bonne santé. D'autre part, les études reliant les probiotiques à la performance ont été majoritairement réalisées sur l'animal et chez les hommes, mais peu chez les femmes. Cependant, ça sera intéressant d'étudier l'effet des probiotiques chez les femmes. car les changements hormonaux au cours des cycles menstruels et la prise des contraceptifs oraux pourraient diminuer la diversité de cette flore intestinale. D'où l'objectif principal de ma thèse sera d'étudier l'effet d'une activité physique combinée ou pas à une supplémentation de probiotiques sur la composition corporelle, plus précisément la masse grasse et la masse musculaire chez les femmes non sportives.
Et comment comptes-tu mettre tout ça en place ?
Je t'explique le déroulement de l'étude. Il y aura 4 groupes parallèles selon la mise en place ou non d'un programme d'activité physique associé à la prise des gélules de probiotiques ou de placebo. Une gélule placebo et une gélule vide, donc elle n'a aucune action spécifique. Pour simplifier, groupe 1, activité physique et probiotique. Groupe 2, activité physique et placebo. Groupe 3, témoin et probiotique, donc sans activité physique. Groupe 4, témoin et placebo. La prise de probiotique ou placebo sera en double aveugle. Donc ni les participantes, ni moi, on saura qui prend quoi avant la fin de toutes les interventions.
Tu auras donc besoin de participantes et de plein de participantes, j'imagine.
Idéalement, je dois inclure 120 femmes non sportives de l'Université d'Orléans pendant les 2 premières années de ma thèse.
Ça devrait être facile, il y a beaucoup d'étudiantes sur le campus.
Oui, je vais faire des campagnes de recrutement dans l'université pour proposer mon projet et recruter effectivement des jeunes étudiantes pour participer à l'étude. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Les participantes doivent être en bonne santé, ne doivent pas être sportives ni avoir une contre-indication à la pratique d'activité physique ou qu'elles soient sous traitement d'antibiotiques. Elles doivent aussi avoir un indice de masse corporelle, ce qu'on appelle IMC, compris entre 18,5 et 30 kg mètre carré. Ne me fais pas ce regard. J'explique. L'IMC est le poids divisé par le taille au carré. C'est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. Pour cela, au début de l'étude, une première visite médicale aura lieu au service de médecine de sport du Centre hospitalier universitaire d'Orléans pour signer le consentement. Ce dernier est une preuve écrite de leur engagement à cette étude. Ensuite, le médecin de sport fera un électrocardiogramme qui est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur afin de confirmer qu'il n'y a aucune contre-indication à pratiquer l'activité physique. Si c'est ça le cas, les participantes récupèrent un pilulier qui contient les gélules à prendre à partir d'une date qui leur sera indiquée. Elles auront aussi une salivette, un tube à remplir avec de la salive, qui va servir à mesurer une substance appelée le cortisol et qui sera utilisée comme un indicateur de stress. Elles auront également un kit dédié pour analyser la diversité de leur microbiote. Finalement, un carnet alimentaire qu'elles doivent remplir tout ce qu'elles mangent ou boivent pendant 3 jours complets et consécutifs. Une deuxième visite aura lieu dans le laboratoire SIAMS au Paul Staps d'Orléans avant toute autre intervention afin de me remettre les salivettes et les kits de microbiote. Je vais récupérer également le carnet alimentaire rempli afin de l'analyser sur un logiciel et calculer leurs apports énergétiques totaux, ce qui correspond aux calories issues de leur alimentation. En plus, déterminer la quantité de glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux, sans oublier la quantité de prébiotiques issues de leur alimentation. D'ailleurs, je ferai une première série d'expériences pour déterminer leur composition corporelle, leur force au niveau des bras et des jambes, leur endurance physique, ainsi que la passation de différents questionnaires dont évaluent leur niveau d'activité physique et leur santé mentale. La durée de l'intervention, que ce soit la pratique de l'activité physique et ou la supplémentation des gélules, sera de 6 semaines. Les participantes des sous-groupes actifs feront 2 séances d'activité physique par semaine, de 45 à 60 minutes par séance.
On parle là de grosses séances de sport, hein, voire de très grosses séances de sport, non ?
Non, car l'intensité des séances sera modérée et contrôlée, donc entre 60 et 80% des capacités maximales des participantes. Chaque séance sera composée des exercices de renforcement musculaire et des exercices d'endurance réalisés sur des vélos par exemple. Les participantes des groupes témoins seront contactées régulièrement par téléphone au cours des 6 semaines pour s'assurer qu'elles suivent bien les consignes de prise de gélules et que tout se passe bien. Une dernière visite aura lieu à la fin des interventions pour refaire les mêmes tests déjà faits au début de l'étude afin de comparer et conclure l'efficacité de chaque intervention chez les participants de différents groupes.
Oh là, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de travail, ça.
Peut-être, mais c'est ça le travail d'une doctorante. Établir un protocole, recueillir plein de données, les analyser pour obtenir des résultats innovants. Et de toute façon, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée par mes directrices de thèse, Mme Nathalie Ritt et Mme Sandrine Ciano-Lomoriello.
Et si je comprends bien ton hypothèse, le groupe qui fait de l'activité physique et prend des probiotiques devrait avoir le plus d'améliorations au niveau de la santé.
Tu as raison. Et je te donne un dernier petit conseil pour fleurir ta santé. Fais du sport et mange des cornichons.
Et voilà un conseil, manger des cornichons pour la flore intestinale. Vous êtes toujours dans la science infuse, on est encore ensemble pour 7 minutes. Je vous propose d'écouter Sub Fatima de KX9000. La science infuse, comme toutes les émissions de Radio Campus Orléans, à retrouver en ligne sur orléans.radiocampus.org en podcast dès le lendemain du jour de la diffusion. Thank you. X9000 avec le titre Sub Fatima sur Radio Campus Orléans. C'est l'heure de nous quitter. C'était La Science Infuse, votre programme de vulgarisation scientifique. Vous retrouvez tous les lundis de 14h à 15h. La semaine prochaine, rendez-vous avec Caroline Rougerie et Philippe Griot de l'Université d'Orléans pour parler d'un autre dispositif autour des mathématiques, maths en jean. Ça promet d'être sportif. La Science Infuse sur orleans.radiocampus.org, en podcast partout sur Terre. Et puis également, Radio Campus Orléans vous donne rendez-vous ce jeudi 17 octobre. Alors si vous ne souhaitez pas aller à la BU de Lettres pour la table ronde, vous pourrez toujours aller sur un autre BU de Sciences. Vous pourrez toujours aller au Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans, pour la soirée des 30 ans de Radio Campus. On se donne rendez-vous à partir de 20h30, une grande soirée électro avec 3 DJ sets. L'entrée, elle est gratuite. Réservez quand même votre entrée pour être sûr d'avoir une place sur lebouillon.fr. Et tout au long de cette semaine et la semaine prochaine, vous retrouvez une grille spéciale des 30 ans à la découverte et redécouverte d'archives sonores, d'émissions, de chroniques et à partir de minuit de la rediffusion d'Apéro-Audio. Et oui, ça fait 15 ans qu'on fait des Apéro-Audio, donc tous les soirs à minuit, vous pourrez réécouter justement les meilleures soirées que Radio Campus a organisées au 108 de la rue de Bourgogne. C'est sur cette grille spéciale qu'on vous a concocté pour les 30 ans de Radio Campus. Le programme complet, il est à retrouver sur notre site internet. Belle journée à vous. Il est 20h dans... Il est 20h n'importe quoi. Il est 15h dans 10 secondes. À plus. Belle après-midi. Prenez soin de vous. Et soutenez vos radios associatives.